Je voudrais remercier votre gentillesse, votre amitié fraternelle et les paroles qui m'ont été adressées ce matin. Voilà, je remercie mon épouse, se joint à moi aussi pour vous remercier. Pour la prédication de ce matin, mes pensées sont allées à deux chapitres d'un livre de l'Ancien Testament qui raconte des histoires véridiques vécues par le peuple d'Israël. Ce sont les chapitres 13 et 14 du livre de Nombres. Dans ces chapitres, nous trouvons la jeune nation d'Israël à Kadesh-Barnéa. C'est un mot, peut-être un nom qu'il faut retenir, à Kadesh-Barnéa, donc aux portes de la terre promise, aux portes de Canaan. Rappelons que c'est Dieu qui a suscité cette nation d'Israël en appelant d'abord le fameux Abraham, n'est-ce pas, Abraham, et ensuite en multipliant ses descendants, comme il avait d'ailleurs promis. La plupart des chrétiens connaissent ces paroles du chapitre 12 du livre de la Genèse, n'est-ce pas, où Dieu appelle Abraham et il dit qu'il fera de lui une grande nation, il bénira ceux qui la béniront, il maudira ceux qui la maudiront, il bénira toutes les familles de la terre en lui. Et donc, c'est ce que Dieu a dit, il l'a fait. Et donc, cette famille s'est agrandie, il y a eu pas mal de descendants, et ces descendants sont arrivés en Égypte dans des circonstances particulières, sous la protection d'un des leurs, le fameux Joseph, n'est-ce pas, Joseph, qui lui, c'est bien de le rappeler aussi, avait été vendu comme esclave par ses frères et qui a fini gouverneur d'Égypte. Comme quoi, comme dit le dicton, n'est-ce pas, Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu ne nous donne pas la réponse qu'on veut, pourquoi il nous fait passer par telle ou telle circonstance. Mais comme dit l'apôtre Paul, toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans la vie de Joseph et de cette nation, c'est la même chose. Or, 400 ans plus tard, ils étaient nombreux. Les spécialistes nous disent qu'ils étaient autour de 3 millions de personnes. Et hélas, leur statut social en Égypte a changé. Ce peuple n'était plus le bienvenu en terre d'Égypte, puisqu'ils sont devenus esclaves des Égyptiens. Et Dieu leur a promis et préparé un pays où, pour citer l'expression biblique, coule le lait et le miel, mais un pays qu'ils devaient conquérir. Un pays qu'ils devaient conquérir. Et donc, sous le leadership de Moïse, Dieu délivre Israël de l'esclavage, de la domination égyptienne. Et rappelons-le, ça vaut la peine de le rappeler, il le fait de manière miraculeuse, n'est-ce pas? Pensons aux fameuses 10 plaies qu'il a envoyées sur l'Égypte. Et après, en noyant l'armée égyptienne qui s'entêtait malgré tout à poursuivre le peuple d'Israël, délivrance que le peuple devait rappeler et célébrer chaque année à Pâques, afin de ne pas oublier son appartenance à l'Éternel et afin de ne pas oublier que sa mission c'était de faire connaître, d'être une bénédiction pour le monde. Or, en quittant l'Égypte, Dieu n'a pas conduit son peuple directement sur la terre promise. Mais il l'a d'abord dirigé vers la péninsule du Sinaï. Et là, c'est un événement très important aussi. La péninsule du Sinaï, pour faire quoi? Pour faire alliance avec son peuple. Pour faire alliance avec Israël et pour former le peuple en tant que nation. Et c'est là, au Sinaï, qu'ils ont reçu donc les 10 commandements. Et la loi qui devait régir la vie du peuple dans tous ses aspects. D'ailleurs, on trouve des livres de l'Ancien Testament parfois compliqués à lire à cause de toutes ces petites lois, n'est-ce pas, qui régissaient tous les aspects de la vie d'Israël. Et c'est aussi au Sinaï qu'ils se sont engagés formellement à obéir à Dieu, à faire sa volonté. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons, ont-ils déclaré. Et c'est aussi à partir de ce moment-là qu'ils ont été sérieusement confrontés au défi de la foi. Sérieusement confrontés au défi de la foi. 14 mois après la sortie d'Égypte, le peuple était donc à Kadesh Barnéa et il était prêt à prendre possession de la terre promise. Et Dieu veut les encourager. Il veut les encourager en leur donnant une première vision du pays. 12 hommes sont envoyés en reconnaissance à l'intérieur du pays pour, dit le texte, explorer le pays, examiner la terre promise. Il nous est dit au chapitre 13, les trois premiers versets, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Et puis, un peu plus tard, au verset 17, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, « Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elle est ouverte ou fortifiée, ce qu'est le terrain, s'il est gros ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. » C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et explorèrent le pays depuis le désert de Tzin jusqu'à Rehob, sur le chemin d'Amat. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron où était Aïman, Séchaï, c'est des noms compliqués à lire, et Talmaï, enfant d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tzoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshkol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Et ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshkol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Ces 12 hommes, donc ces 12 espions, ont été envoyés, dont Caleb et Josué, et ils se sont vraiment infiltrés à l'intérieur du pays. Ils ont parcouru le pays du sud au nord, de la montagne d'Hébron et tout le long de la vallée du Jourdain, et ils sont revenus à Kadesh Barnéa, au centre de leur peuple, 40 jours plus tard, avec pas mal d'histoires, des choses à raconter, n'est-ce pas, et en plus en apportant des fruits de la vallée de la grappe. C'est ainsi qu'ils ont, c'est le nom qu'ils ont donné donc à cette vallée. Ils ont trouvé une grappe de raisins énorme. Et donc, à leur arrivée, ils font un rapport complet des opportunités et des obstacles qu'ils ont trouvés et que le peuple d'Israël trouverait sans doute sur sa route. Rapport que nous trouvons à partir du verset 27 où il est dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Bref, en gros, ils sont en train de dire au peuple, à Moïse, Aaron et au peuple, oui, c'est un pays merveilleux, mais il y a des défis de taille à relever qu'il va falloir relever si on veut vraiment le conquérir. Or, devant la présentation que ces 12 hommes font de leur infiltration au sein du pays, les opportunités, les obstacles, il y a un débat qui s'installe au sein du peuple. un débat qui s'installe au sein du peuple, débat qui nous est rapporté à partir du verset 30. Et on voit que Caleb et Josué, avec courage et confiance, ils affirment que la victoire est possible. Des 12, il n'y a que 2 qui affirment que la victoire est possible. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs, affirment-ils. Et ils insistent sur la fidélité de Dieu. C'est là l'accent qui... La fidélité de Dieu. Dieu est avec nous. N'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bûchée. Ils n'ont plus de protection, car l'Éternel est plutôt avec nous. Hélas, leur voix est minoritaire. Les 10 autres ne sont pas du même avis. Et ils affirment, verset 31, nous ne pouvons pas monter contre ce pays. Ils sont catégoriques. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré en disant, c'est un pays qui dévore ses habitants. Il y a peut-être là une allusion au sacrifice d'enfants que ce peuple avait l'habitude de faire, n'est-ce pas, au dieu Moloch, hein, peuple terrible. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Le débat fait rage au sein du peuple et le peuple, pris de panique, se range, devinez de quel côté ? Du côté des dix hommes qui ne croient pas à la victoire. Il se range, le peuple se range du côté de la crainte, de la panique, de l'incrédulité. Là où Caleb et Josué voient des opportunités à saisir, les 10 autres ne voient que des difficultés et des obstacles insurmontables. La peur peut parfois est bonne conseillère, mais très, très souvent, elle est très mauvaise conseillère. La peur grossit toujours les choses. Elle est souvent mauvaise conseillère, elle nous pousse à nous mentir à nous-mêmes et à user parfois des prétextes fallacieux pour ne pas entreprendre ce que nous devons entreprendre. C'était Grégoire Lacroix qui disait « Parfois, on s'est tu parce qu'on avait peur d'avoir tort et l'on découvre après qu'on avait tort d'avoir peur. » On avait tort d'avoir peur. Combien de fois cela nous arrive à nous aussi, soyons honnêtes. Dieu nous donne la conviction qu'il faut faire ceci ou cela, n'est-ce pas ? Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Et pourtant nous avons peur et nous ne croyons pas à la victoire. Or le peuple, malgré le fait que Josué et Caleb insistent sur le fait que Dieu sera avec lui, versets 8 et 9, l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel, ne les craignez point, l'Éternel est avec nous. Malgré cela, malgré le fait qu'il leur appelle donc la fidélité de Dieu envers son peuple, le peuple est pris dans la panique, n'est-ce pas ? Il va même jusqu'à vouloir changer de chef. Il y a un soulèvement au milieu du peuple contre Moïse et Aaron, donc les leaders du peuple. Ils envisagent même de les lapider. Pire encore, non seulement ils veulent changer de chef, mais ils veulent retourner au pays de l'esclavage. La mémoire était courte, n'est-ce pas ? Ils avaient oublié toutes les vexations, toutes les humiliations, toute cette période de travaux forcés, d'esclavage. Ils ont mis tout ça de côté. Ils voulaient lapider leurs dirigeants et retourner dans le pays de l'esclavage. Le peuple a fixé ses yeux sur les obstacles plutôt que sur Dieu qui leur présentait l'opportunité de s'approprier le pays qu'il avait promis à son peuple. À partir du verset 10 du chapitre 14, on voit que Dieu n'est pas du tout content avec la réaction du peuple. Il n'est pas content de voir cette incrédulité, cette crainte, cette panique du peuple. Il n'a pas raison d'avoir peur. Dieu est avec lui. Et il nous est dit au verset 10, « Ce peuple me méprise, c'est Dieu qui parle, ce peuple me méprise, il ne croit pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai effectués. » Oui, tous les 10 plaies, toutes ces, la sortie d'Égypte, tout ça a été oublié, quoi. Et pourtant, Dieu avait fait des miracles pour que le peuple sorte de l'esclavage. Comme quoi, les miracles ne garantissent pas toujours que les gens resteront dans la foi, n'est-ce pas? Les miracles ne garantissent pas ça. Et on le voit, il y a plusieurs textes de la Bible qui le montrent bien. La peur et l'incrédulité nous font penser que les miracles de Dieu ne sont que des coïncidences, n'est-ce pas? Le hasard heureux des choses. Voilà l'incrédulité dans laquelle parfois nous nous trouvons. Et Dieu décide donc de juger son peuple. Verset 22, « Aucun de ces hommes, c'est Dieu qui parle, aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les manifestations extraordinaires que j'ai produites en Égypte et dans le désert, qui ont déjà 10 fois voulu me forcer la main et qui ne m'ont pas obéi, aucun de ces hommes ne verra le pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres. Aucun. Aucun de ceux qui m'ont méprisé n'y entrera. Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu et ses descendants en hériteront. » La promesse de Dieu est là pour ceux qui ont été fidèles. Le pays est donné à ceux qui voient à travers les obstacles des opportunités de s'engager avec confiance pour Dieu, de contempler sa gloire et de jouir de ses promesses et non pas aux incrédules, à ceux qui ne croient pas. Ce récit, frères et sœurs, nous permet de retirer pas mal de leçons pour nous aujourd'hui. Certes, c'est un récit d'une autre époque, n'est-ce pas, l'Ancien Testament? Mais pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Nous, les enfants du Seigneur, nous, le peuple de Dieu. Vous savez que l'apôtre Paul rappelle que ces choses leur sont arrivées, je cite le texte, qui ont été écrites pour nous servir d'exemple et pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc si nous les avons dans le texte biblique, c'est aussi pour nous aujourd'hui. Première leçon que je retire, c'est quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Il ne ment pas, il ne manque pas à sa parole. D'ailleurs, un peu plus loin dans ce même livre, il est dit, « Dieu n'est pas un homme pour mentir. » Dieu, notre Dieu, est le Dieu de la vérité. Quand il dit quelque chose, il tient parole. Quand il promet quelque chose, il l'accomplit. Il est fidèle à sa promesse. Il ne joue pas avec nos émotions et moins encore avec nos sentiments. Il ne change pas d'avis du jour au lendemain. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. C'est là une vérité importante que nous devrions garder dans nos cœurs constamment, en toutes circonstances de nos vies. On sait bien que la vie, et la vie chrétienne, est souvent difficile, elle n'est pas facile. Il y a des situations que nous ne maîtrisons pas et qui sont susceptibles de nous faire peur, peut-être même d'entrer en panique. Ça peut arriver. Cependant, au milieu de ces circonstances, de ces situations, de ces aléas de la vie, une vérité demeure. Dieu, lui, il ne change pas. Il ne nous décevra jamais. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Et nous pouvons, comme le dit le psalmiste, faire de lui nos délices. Nous pouvons recommander notre sort à l'Éternel, mettre en lui sa confiance, sachant qu'il agira au temps voulu. Nous devons donc nous approprier les dons et les promesses de Dieu à notre égard. Dieu est fidèle à ses promesses et quand il fait alliance avec nous, il s'engage à faire ce qu'il a promis. Mais il attend aussi de notre côté notre engagement, n'est-ce pas? Notre fidélité. Dieu avait promis de délivrer l'humanité de l'esclavage du péché. Et il a fait le nécessaire. Il a fait le nécessaire pour que le péché soit jugé et puni. Son fils Jésus-Christ s'est offert pour payer, pour porter à la croix les péchés de l'humanité. Mais à nous maintenant, à chacun de nous, de faire ce qui nous compète de faire, recevoir par la foi ce que le Christ a accompli pour nous, ce cadeau de Dieu en Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Voilà, c'est notre part à nous. Et nous engager à lui obéir pour jouir d'une vie fructueuse et abondante qui se poursuivra au ciel avec lui. L'autre leçon que je retire, c'est que lorsque Dieu fait des promesses à son peuple, ces promesses ne signifient pas qu'il n'y aura jamais d'obstacles, il n'y aura jamais de souffrance, il n'y aura jamais d'obstacles sur notre route. Non, ça, toute la Bible est là pour nous le dire et notre expérience chrétienne nous le montre, n'est-ce pas? Il y en aura sans doute, mais ces obstacles seront surmontés par notre confiance en Dieu, parce que ce que Dieu nous demande, c'est notre confiance que Dieu, selon sa promesse, nous accompagne tous les jours jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Il ne nous laissera jamais tomber. Et c'est cette confiance en lui et en ses promesses qui nous permet d'avancer avec courage et avec confiance, sachant qu'il prendra soin de nous et qu'il ne nous laissera jamais tomber. Dieu attend de ses enfants qu'il compte sur lui jour après jour, qui s'engage courageusement à prendre possession des nombreuses bénédictions qu'il a mises en réserve pour chacun de nous et pour son peuple. Hélas, parfois, le peuple de Dieu préfère rester dans sa Kadesh Barnéa à lui, n'est-ce pas? Et mon ministère de 37 ans de pasteur m'a montré que souvent, on est très bien entre nous, n'est-ce pas? Dans les quatre murs de nos bâtiments, on fait beaucoup de choses parfois pour nous donner une bonne conscience. Mais les Cananéens se trouvent dehors, dans la cité, dans la ville, dans les clubs de sport, dans les associations, dans les chorales en ville. Et nous, on organise beaucoup de choses là. Mais est-ce que les Cananéens vont venir? Ils ne vont pas venir. Ils sont peut-être l'un ou l'autre, oui. Ils sont là. Il faut aller là où ils sont, n'est-ce pas? Il faut aller là où ils se trouvent. Si on veut les conquérir au l'Évangile, il faut vivre au milieu d'eux, il faut servir au milieu d'eux, faire une sel de la terre et lumière du monde au milieu d'eux. Ne pas accepter les défis que Dieu nous donne, et Dieu nous dit d'aller, n'est-ce pas? D'aller, c'est être rebelle à lui, c'est chercher un autre chef que lui, et finalement faire marche en arrière, retourner à notre passé d'esclaves du monde et des passions du monde, n'est-ce pas? C'est paniquer à l'idée que nous sommes impuissants devant les défis, se plaindre de Dieu, que Dieu ne nous accompagne pas, qu'il veut peut-être même nous faire du mal. Marcher et avancer courageusement par la foi mène à la bénédiction, mène à la bénédiction. D'ailleurs, la parole de Dieu nous y incite, le juste vivra par la foi, le juste vivra par la foi. On voit dans le livre de Josué, voilà, je vais terminer bientôt, le temps avance, il y a tellement de choses, et ce n'est pas la première fois que je prêche sur ce texte ici, mais on voit que dans le livre de Josué, 40 ans plus tard, Josué et Caleb, donc les deux qui ont été fidèles et qui croyaient à la victoire, ont pris possession de la terre promise. Caleb a réclamé, alors qu'il était très avancé en âge, la montagne d'Hébron. Selon la promesse divine, la montagne d'Hébron qu'il avait vue de ses yeux avant, n'est-ce pas? Et l'Éternel a été fidèle à sa parole. Il a honoré effectivement la foi de cet homme et son engagement. Le Seigneur honore toujours la foi de ceux qui lui obéissent et qui lui restent fidèles malgré les circonstances difficiles et vicissitudes de la vie. Le Seigneur honore toujours la foi de ses enfants. Alors ma prière, c'est que le Seigneur fasse de nous, chacun de nous ici dans cette salle, des Caleb et des Josué qui fixent leurs yeux sur le Seigneur et qui affrontent les obstacles quotidiens, n'est-ce pas, de la vie chrétienne, non pas dans la crainte, dans la panique, mais avec courage et avec confiance. et qui les transforme même en opportunité de goûter à la fidélité de Dieu. Vous savez peut-être que notre église ici à Chambéry aura 55 ans le mois prochain, n'est-ce pas, au mois de novembre. Je le sais et je pense que quelques-uns se rappellent encore parce que quand je suis arrivé ici en 2016, la première grande cérémonie, c'était les 50 ans de notre église. Donc 2016-2021, voilà 55 ans. 55 ans où Dieu a été avec son peuple ici à Chambéry et l'a racheté, l'a gardé, l'a accompagné jusqu'à aujourd'hui. À travers ces années, le témoignage de l'Église a été croissant. Moi, je me rappelle que quand notre frère Christian Himmlinger m'avait invité à prêcher à Chambéry en 96, à notre retour de Centrafrique, 96, donc... Il m'a invité à faire une étude publique à Cayenne et le dimanche matin à l'église, c'était à rue du Bon Pasteur. Peut-être qu'il n'y avait même pas la moitié des personnes. Non, il n'y avait pas la moitié des personnes qu'on reçoit dans cette salle, n'est-ce pas? Et pourtant, aujourd'hui, l'église, en tout cas avant le Covid, moi j'avais compté 245 personnes, avec les enfants, bien sûr, qui sont des personnes à part entière, n'est-ce pas, qui fréquentent notre église. En 2018, on avait 120 membres. Je ne sais pas combien de membres avait l'église rue du Bon Pasteur, hein, mais peut-être une soixantaine à l'époque. Vous imaginez? Ça a commencé avec la famille Paul Arbine, n'est-ce pas, qui est partie l'année dernière rejoindre le Seigneur, qui a réuni un petit groupe chez lui. Après, il y a eu ils ont acheté, je pense, le bâtiment rue du Bon Pasteur. Et l'Église ne s'est jamais arrêtée, n'est-ce pas? 50 ans, 55 ans où Dieu était avec nous ici. Il y a quelques années, moi je n'étais pas là bien sûr, puisque ça fait 5 ans que je suis là, 5 ans et 2 mois. C'était à l'époque d'Étienne Lincoln, n'est-ce pas? L'Église vous a donné la vision d'une Église avec son propre bâtiment. Ce beau bâtiment que nous avons depuis 2014, n'est-ce pas? C'était le fruit de cette vision que l'Église a reçue, n'est-ce pas? Et qui s'est concrétisée. Parfois, c'est des rêves qui commencent comme ça, n'est-ce pas? Et qui se réalisent pour le bien de l'Église. Et donc, dans ce bâtiment, nous avons le privilège de nous retrouver dimanche après dimanche, tous ensemble, pour louer le Seigneur, mais aussi pour recharger nos batteries spirituelles, parce que la vie en semaine dans la cité est rude, n'est-ce pas? Mais quel privilège! Et en plus, il y a d'autres activités. Nous pouvons donner une formation chrétienne à nos enfants, etc. Les jeunes qui se réunissent ici. Pas mal d'activités ici, n'est-ce pas? Quel privilège, quelle bénédiction! Le Seigneur a été avec son Église depuis toujours. Ce bâtiment est un outil utile, n'est-ce pas? Qui permet donc de faire de bonnes choses dans l'œuvre du Seigneur aussi. Mais je reviens encore à ce que j'avais dit tout à l'heure. Attention de ne pas faire de ce bâtiment notre Cadès Barnéa à nous, n'est-ce pas? On est tellement bien ici qu'on ne veut pas aller dehors, n'est-ce pas? Il y a des lions dehors, donc on reste. Non, la vie chrétienne, c'est dehors, n'est-ce pas? Toute la semaine dans la cité. Un privilège, oui, mais n'oublions pas l'essentiel, n'est-ce pas? Notre engagement dans la cité, n'est-ce pas? Notre engagement dans la cité pour y être le sel de la terre et la lumière du monde. Comme nos frères du passé ont été fidèles et persévérants dans leur engagement pour le Seigneur, soyons-le nous aussi, à notre niveau. Nous qui avons repris le flambeau, Dieu nous ouvre des fenêtres, des portes, des perspectives pour percevoir sa promesse, mais nous avons la responsabilité d'avancer, non pas avec crainte et dans la panique, mais avec confiance, avec courage. Pour saisir la promesse divine à notre égard. Hébreux 12 nous rappelle l'exemple de confiance, de courage et de persévérance d'une nuée de témoins à travers les temps. Une nuée de témoins des temps passés qui ont transformé donc les obstacles en opportunités de donner gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide à faire partie, nous aussi, de cette nuée de témoins. Mais pour cela, nous devons placer notre confiance dans le Seigneur. Et je le répète, il ne nous décevra jamais. Voilà Donc, ce que j'avais à vous apporter ce matin, un message plutôt d'encouragement, restons fidèles au Seigneur dans la confiance, le Seigneur vous accompagnera. Un petit mot pour vous dire au revoir, même si c'est vrai que là, pendant quelques semaines, nous allons partir un petit peu dans la famille. Ma famille au Portugal a été délaissée depuis plus de 40 ans, donc maintenant c'est le privilège d'avoir du temps libre pour aller rendre visite à ma famille. Et donc nous serons sans doute absents jusqu'à la fin de l'année, mais nous avons notre maison dans la région, donc on aura sans doute l'occasion de revenir vous rendre visite. Et mon épouse et moi aimerions donc à la fin du culte vous offrir le petit pot le verre de l'amitié, n'est-ce pas? Il y aura quelque chose à grignoter et à boire, donc vous passez d'abord par la table, vous allez recevoir un petit sachet, hein, voilà, avec des choses à grignoter, et un peu plus loin, donc la table avec les boissons. Alors, j'aimerais vous demander de continuer à garder les gestes sanitaires nécessaires, n'est-ce pas? Bien sûr, on enlève le masque pour boire, pour manger, mais essayons de garder les distances parce que nous n'aimerions pas que cette petite réception, ce pot de l'amitié se transforme en quelque chose de mauvais. Donc voilà, nous savons que le virus est encore là. Il ne nous abandonne pas pour le moment. Prions le Seigneur pour que ce virus puisse disparaître au plus vite. Encore une fois, je vous remercie vivement le soutien, l'amour et l'amitié reçus ici pendant ces 5 années. Je tiens aussi à remercier mon épouse parce que, vous savez, quand on s'est connus, on avait l'âge des gens, on n'avait pas encore 20 ans, on avait 19 ans, voilà, on s'approchait des 20 ans. Ma femme était en faculté de droit à Bordeaux et moi j'étais à Lisbonne en train de faire mes études théologiques. Et donc on a commencé à se fréquenter à Bordeaux, donc je devais venir de temps en temps à Bordeaux pour la voir, mes parents étaient missionnaires à Bordeaux hein, parmi les Portugais. Et mon épouse a abandonné ses études de droit pour faire des études d'infirmière. Parce qu'elle savait aussi, bon, il y avait d'autres raisons, mais elle savait aussi que j'avais reçu un appel pour être missionnaire en Afrique. Donc je faisais de la théologie pour partir comme missionnaire en Afrique. Et donc on s'est dit, voilà, on finit nos études. Elle a fini ses études d'infirmière. Moi, j'ai fini mes études de théologie. En plus, j'ai été appelé à faire mon service militaire qui était obligatoire à l'époque. Et à la fin de tout ça, on s'est mariés. Donc, on s'est mariés en 1982. L'année prochaine, Dieu voulant, nous allons fêter nos 40 ans de mariage. Hein? Voilà. Et donc, mon épouse m'a toujours accompagné, même en Afrique. Alors, le continent, où elle ne connaissait rien du continent. Souvent, les images qu'on nous donne ici à la télévision sont des images de mauvaises choses qui se passent. Alors que moi, j'avais vécu en Afrique jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc voilà, moi, je n'avais pas peur de l'Afrique, mais elle et sa famille, c'était une autre histoire, n'est-ce pas? Les serpents, les crocodiles, etc. Bon. Mais elle m'a accompagné. Elle a offert 12 années de sa vie en tant qu'infirmière à la mission. Et ça, il faut le faire. 12 années de sa vie de manière bénévole en tant qu'infirmière à la mission. En plus, en tant que pasteur, j'étais appelé souvent à changer d'église, n'est-ce pas? Elle a dû changer souvent de service hein, et d'hôpital parce que, voilà, tous les 6, 7 ans, 8 ans, voilà, elle est dans une autre ville pour servir notre église et elle m'a toujours accompagné. Les dimanches, surtout les dimanches à table, des dizaines de fois, on avait entre 10 et 15 personnes à table. Et là, il fallait préparer à manger avant le culte parce qu'on savait que probablement, à la fin du culte, il y aurait beaucoup de monde à table. Parfois, dans notre salle de séjour, c'était impossible de circuler tellement. Et nous étions toujours dans la joie de recevoir donc, des personnes des églises où on a servi autour de la table. Et elle a servi avec joie. Elle m'a accompagné dans les visites pastorales, parfois des choses très difficiles, ouais, où j'avais besoin d'elle pour m'accompagner, n'est-ce pas? Elle m'a donné des conseils. Voilà, 37 ans de ministère avec mon épouse, même si ce qu'elle fait ne se voit pas toujours. Donc, merci beaucoup. J'ai une femme formidable. Juste un petit mot pour terminer. Si vous me demandez, mais alors qu'est-ce que toi, jeune retraité, tu vas faire maintenant que tu es à la retraite? Je pense que je vais faire beaucoup de choses. D'abord, 3 mois de repos pour vider un petit peu la tête. Hein. J'ai déjà commencé par les cheveux, donc il faut qu'à l'intérieur... Donc 3 mois vraiment de repos, sans responsabilité, de voyage, d'amitié au sein de nos familles. Mais bien sûr, je ne vais pas rester sans rien faire l'année prochaine probablement. Et peut-être que mon épouse décidera encore de m'accompagner, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est une question qu'on va encore prier sur ça, mais peut-être qu'il y aura une église, et je sais qu'il y a beaucoup d'églises un peu partout sans pasteur qui n'ont pas la possibilité de payer un salaire pastoral, c'est pas dans leurs moyens. Donc en tant que pasteur bénévole, je vais servir jusqu'à ce que la tête ne fonctionne plus, et voilà, voilà. Donc pasteur un jour, pasteur toujours, je continue à servir le Seigneur jusqu'au bout. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse aussi votre nouveau pasteur. Il y aura beaucoup de bonnes choses que Dieu a en vue pour vous ici à Chambéry. Merci.